Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Par les temps qui courent. Par les temps qui courent, c'est une heure tous les soirs avec un ou une artiste. Ce soir, on est ravis de recevoir le cinéaste Nicolas Philibert.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Nicolas Philibert.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Ce n'est pas très facile de faire un film sur le présent, parce que c'est vaste et fuyant et qu'on ne sait jamais trop par quel bout le prendre. Eh bien, je crois que votre dernier film, Nicolas Philibert, fait cela, presque méthodiquement. Toutes les questions qui agitent notre présent agitent les corps et les mots des personnes que vous filmez au sein d'une école d'infirmiers et infirmières et dans les services hospitaliers. Elles les agitent, mais par la bande. Le soin, l'argent, le temps, la mort, le service public, le droit à la dignité, la parole, l'enseignement, les rapports de domination, le travail, évidemment, la jeunesse et j'en passe. C'est un film qui, suivant son fil de très près, la formation de futurs soignants, parvient à prendre une grande partie du présent dans son cadre, j'allais dire dans ses bras. De chaque instant, c'est son titre, c'est le dernier qu'on a pu voir sur grand écran. Tous les autres, ou presque, sont réunis dans un coffret édité par Blackout, avec ce qu'il faut de bonus, de courts-métrages, de livrets, d'inédits, tout ça. Bonsoir Nicolas Philibert.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Merci beaucoup.
Puisqu'il faut un début, ben on commence par La Moindre des Choses, 1995.
Tu filmes Nicolas ?
Oui.
D'accord. Tu filmes Rami Kurdo ou demain, Nicolas ? Hein ?
C'est de les apporter, oui.
C'est de Porterey. D'accord, Coca-Cola, Coca-Cola.
Pour mettre
le slip. Vas-y, filmez.
J'en ai deux.
J'en
ai mis deux au chapeau. Il y en a une là. Je peux la mettre sur
le. Tu penses à la télévision ? Ça te fait rire qu'il s'est écœuré comme ça. Hein. Ça te fait rire. Hein. T'es dingue, t'es complètement dingue. Et puis toi, t'es cinglé à la mort. C'est carrément cinglé.
Tu crois?
Il a fait une connerie. Et il faut pour un fermier. C'est le soignant qui doit se faire soigner.
Ah, des fois, oui, ça arrive. Peut leur arriver. On
n'est
pas contre. Hein.
Hein?
On
n'est
pas contre. Hein.
Non, mais. On a besoin de soins.
Ah oui, c'est sûr que sinon on se fait soigner, on ne se soigne plus. Ah ouais. Du feu. Et tu veux quoi, une cigarette là? Parce que ton vieux mégot. Tiens.
Vous qui avez fait, Nicolas Philibert, un film dans cette maison de la radio, ça vous fait quoi d'écouter des extraits de vos propres films?
Oh, je sais d'avance, je connais tout ça par cœur parce que j'ai tourné les films, je les ai montés moi-même. Et mais ça me touche d'entendre Jean-Claude, cet homme qu'on vient d'entendre, et ça me ramène 24 ans en arrière. 23 ans, 24 ans en arrière, le tournage de La Moindre des Choses. Un tournage compliqué, pas simple. C'est pas rien de tourner dans un endroit comme la clinique de la Borde. Il faut prendre 1000 précautions. Je marchais un peu sur des œufs. C'était une expérience qui m'a énormément apporté, enrichi, qui m'a donné beaucoup à réfléchir sur mon travail, sur moi-même, sur ce que je fous là, d'une certaine manière, ce que je foutais là.
Dans le cinéma ou comme ça, dans la nature? Qu'est-ce que vous foutez là sur Terre?
Non, pas ce que je fous là sur Terre, parce que c'est une question trop, trop vaste, mais faire un film, pour moi, ça ne va pas de soi. C'est pas automatique, c'est pas rien, c'est pas simple. Je fais mes films avec avec des questions, dont je ne sais pas toujours, auxquelles je ne sais pas toujours apporter une réponse, auxquelles les films n'apportent pas toujours de réponse, mais et parfois les questions restent entières une fois le film fini. Mais parmi ces questions, il en est une qui est celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire de venir braquer une caméra dans un lieu comme la clinique psychiatrique de la Borde? C'est pas du tout évident. Je dis souvent de ce film que je l'ai fait à reculons. Au départ, il n'en était pas question. Des gens autour de moi m'ont suggéré d'y aller, de faire un film là. C'est bien, ça, c'est un endroit pour toi, entre guillemets. Et j'ai longtemps résisté à cette idée, parce que l'idée de venir avec une caméra dans un lieu où ceux qui sont là ont sans doute besoin d'être tranquilles, d'être un peu à l'écart du monde, cette idée-là me déplaisait souverainement. J'avais des profonds scrupules. Une caméra, c'est pas un outil anodin. C'est un instrument de je dirais que celui qui l'a dans les mains exerce un pouvoir d'intimidation, et il faut être attentif à ne pas en abuser.
Mais elle exerce aussi un pouvoir sur celui qui la tient dans les mains, c'est-à-dire que c'est un pouvoir qui va dans les deux sens, comme très souvent Nicolas Philibert. Et vous dites à propos de ce film que la caméra, elle vous a aussi permis de le faire, elle vous a aussi permis de vous approcher de cet homme qu'on entendait dans l'extrait, d'autres personnes, une autre femme. Enfin, il y a des personnes dont vous vous approchez en effet très près dans ce film-là. Ça faisait déjà un moment que vous filmiez, puisque La Voix de son maître, c'est 1978. Avant, vous aviez été assistant réalisateur. Alors, en 1995, vous comprenez quoi de l'art cinématographique ou de ce que c'est que tenir une caméra dans ses mains à la clinique psychiatrique de la Borde?
C'est vrai que cette caméra me permet de m'approcher. J'ai le sentiment qu'elle va me protéger, créer une petite carapace. Je vais avoir quelque chose dans les mains qui va m'occuper, qui va me permettre de dominer la peur que j'ai. Et en effet, elle me donne un petit peu cette force-là. Mais ça fait pas tout, ça résout pas tout. Et puis, c'est le premier film que je faisais comme cadreur. C'est la première fois que je prenais la caméra, en réalité. Donc, j'étais pas très fier de moi. Mais j'ai tenu à filmer, en particulier pour ce film-là, parce que j'avais envie de garder la haute main sur le cadre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelquefois, quand on confie l'image à quelqu'un d'autre, la personne qui filme à votre place, surtout dans un film documentaire, a cette petite tendance à aller vers, à être attirée par ce qui est un peu spectaculaire, etc. Et j'avais besoin d'être celui qui poserait le cadre, qui poserait des limites, qui serait attentif à ne pas déborder. On ne sait pas toujours. Quelquefois, on ne sait pas, on filme quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Quand je tournais à la Borde, je ne consultais pas les dossiers médicaux des gens. Je ne savais même pas toujours si les uns et les autres étaient des patients, des soignants, puisque à la clinique de la Borde, il n'y a pas de signe distinctif qui permet de désigner comme tel les patients, les soignants. Et puis je connaissais pas les histoires des gens, et ça, d'une certaine manière, ça ne me regardait pas, mais On ne sait pas, quelquefois la caméra peut réveiller une phobie, peut créer quelque chose qu'on n'a pas imaginé. Donc il faut être un peu sur ses gardes, il faut être un peu attentif. Et en même temps, il faut pouvoir y aller. Il ne faut pas se freiner.
Vous avez l'impression que vous l'avez tenue différemment ensuite, la caméra, à partir de 1995 et ce film-là ? Déjà, vous l'avez tenue ?
Alors déjà, je l'ai tenue, mais j'ai pris du plaisir à ça. Et ça, c'est quelque chose de si fort que par la suite, je n'ai plus jamais souhaité confier la caméra à quiconque. Ça pourrait m'arriver si je devais filmer des choses, faire des plans un peu techniquement compliqués, etc. Mais en général, je fais simple, je fais pas de fioritures, je filme sans fioritures. J'essaye d'être simple, au plus près des gens. Et voilà, peut-être que certains trouvent que mes films sont trop simples ou manquent un peu de mouvement, mes plans peut-être manquent un peu de virtuosité. Qu'importe, j'ai envie d'être dans cette simplicité-là. Je ne fais pas un mouvement de caméra si ça n'est pas tout d'un coup nécessaire. J'en ferai un si besoin, mais je ne fais pas de mouvement pour faire des mouvements, pour faire joli, ça n'a pas d'intérêt.
Tout à l'heure, vous avez dit que faire un film, c'était pas rien. Et si on essaye de se demander comment ça se met en route, ce pas rien,
oui.
Est-ce que le plaisir à le faire est un élément primordial ?
Ah mais s'il n'y avait pas cette part de plaisir à chaque étape, c'est du plaisir et des difficultés. Mais le plaisir vient de là, des difficultés et des embûches qu'il s'agit de surmonter. Il y a un plaisir dans l'écriture d'un projet parce que le film n'existe pas encore et on commence à l'imaginer, puis au tournage parce que c'est un moment plein de surprises, en tout cas dans les films tels que je les fais. Et puis enfin le montage où là c'est peut-être pour moi le moment le plus exaltant.
On y reviendra évidemment sur ce moment et cette question du montage. Mais puisque vous avez prononcé ce mot d'écriture et que vous avez aussi prononcé ce mot de documentaire, je vous ai laissé les prononcer comme ça, j'étais tranquille. Comment est-ce qu'on écrit un film documentaire ? Bon, par exemple, prenons La Moindre des Choses. On va filmer dans une clinique psychiatrique avec des êtres pour le moins imprévisibles. Nous le sommes tous, mais peut-être encore plus dans cet endroit-là. Vous écrivez quoi sur le papier, Nicolas Philibert ?
J'écris, je décris un peu les lieux, cette clinique, en pleine forêt, dans la Sologne, dans un petit château de la Loire, un petit château de Guingois, un petit château qui se donne des airs de qui ne prend pas des grands airs de château justement, qui a été retapé, la toiture, il y a des trous partout, etc. Mais bref, c'est un endroit assez étrange. Donc je décris un peu les lieux, le climat qui règne dans cet endroit, ce qu'on essaye d'y faire. Et très vite, je vais essayer de dire, voilà, à quelle sorte de défi je souhaite me confronter. Je ne fais pas mystère des questions qui sont les miennes, des difficultés que je vais rencontrer, des enjeux de ce film. Je ne suis pas quelqu'un qui, dans l'écriture, dans l'exposé du projet, abat des cartes comme ça pour afficher des certitudes et avoir l'air de tout connaître déjà, de tout savoir, etc. J'avoue humblement que le film est devant moi, que je ne sais pas encore exactement ce qui sera, mais au moins je dis voilà à quoi je voudrais vers quoi je voudrais aller, à quoi je voudrais me risquer au fond.
Et on vous donne de l'argent.
J'ai cette chance de pouvoir trouver le financement de mes films, oui. Mais je sais pas, ça peut-être que ça va un jour se tarir, parce que il faut toujours, parce qu'il y a beaucoup de films, parce que, mais j'ai la chance de pouvoir continuer à faire des films. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui tourne. Il y a des cinéastes qui sont beaucoup plus productifs que moi, qui tournent un film par an ou un film tous les 18 mois. Ça n'est pas mon cas. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à faire le film de plus. Ça m'intéresse pas de faire un film de plus. Ce qui compte pour moi, c'est de faire un film quand c'est une forme de nécessité. Il y a quelque chose qui s'impose, et c'est ça. C'est là. Je ne cours pas après les sujets. Je ne cherche pas à savoir si c'est un bon sujet ou pas ou quoi. Le sujet, je dirais, c'est presque quelquefois chez moi un prétexte, en tout cas une porte d'entrée. Mais il s'agit pas de traiter un sujet, surtout pas. Il s'agit de je dirais évoquer, poser une question, se poser des questions et faire un film avec ça, à partir de ça. Alors il y a là tout à la fois un mélange de liberté, de fragilité, de difficulté, parce qu'il suffit pas d'écrire le projet. Une fois que le projet est écrit, il faut mettre en œuvre quelque chose, et c'est pas rien.
Encore une fois.
Tout mon cinéma parle du regard. Je filme, j'essaie de filmer le fait de voir, la merveille de voir, ou là, le mystère et la merveille de percevoir le monde. Et de ce fait, le mystère du monde. Donc peut-être ça devient un peu mystique, mais le monde ne s'offre pas comme une évidence. Mais que quand on vit, quand on a des expériences très différentes, très contradictoires, le monde est aussi à la fois très factuel, très dur, très, très vrai et très mystérieux. Donc, et de percevoir tout ça, je dirais que c'est un mystère constant, une source d'émerveillement, d'étonnement. Et donc je crois que mon cinéma tourne autour de ça.
C'est la voix de Johan van der Keuken en 2010 au micro de Laura Adler dans l'émission Hors-Champ sur France Culture. Nicolas Philibert, il dit, je crois, avec beaucoup de précautions, mais quand même, que je filme le mystère de voir, qu'en fait je filme ce que c'est que de regarder. Alors vous, vous réunissez comme ça quasiment tout ce que vous avez filmé depuis de nombreuses années, Nicolas Philibert, dans une belle petite boîte chez Blackout. Est-ce que vous êtes aussi en mesure de dire, je crois que ce que je fais en fait depuis des années, c'est ça? Est-ce que ça vous a permis, par exemple, de reparler de ces films, de les revoir peut-être, de les voir tous réunis, d'avoir une idée supplémentaire sur ce que vous avez fait?
Quand on revisite ces films, on se rend compte... On les regarde autrement, on les regarde un peu différemment, mais en fait, je crois... il me semble que on apprend, au fond, faire des films nous sert à apprendre à regarder. On apprend à regarder. On n'en a jamais fini avec ça. Et je dirais, c'est aujourd'hui d'autant plus vrai que on est dans un monde d'images et qu'on ne sait plus regarder. On ne regarde plus.
Qui ça ne regarde plus?
On ne regarde plus. Les gens visitent les musées, des monuments, etc., prennent des photos pour ne pas regarder. C'est très frappant aujourd'hui, comment on ne regarde pas. Les gens ont le nez dans leur smartphone quand ils marchent, ne regardent plus. Plus personne ne regarde. Le cinéma devrait nous apprendre un peu à regarder. Et le cinéaste est le premier concerné. Filmer, c'est essayer regarder, distinguer des choses, s'arrêter, prendre le temps de d'écouter.
Vous regardez mieux, vous, quand vous filmez ?
Peut-être. Peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu mieux, oui. Je réfléchis à ce que je vais filmer, en tout cas. Je me souviens, c'est très frappant, le premier jour de tournage d'Être et Avoir dans cette école, cette petite école. Je me souviens avoir mis la caméra sur l'épaule et commencé à filmer. Et j'ai passé la journée à filmer tout et rien, et tout et n'importe quoi. Au fond, ma caméra balayait l'espace de la classe. Je restais 5 secondes sur l'un, 10 secondes sur l'autre. Et je me suis rendu compte le soir que je n'avais rien vu, rien filmé. Et que c'était la dernière chose à faire. Le lendemain, j'ai pris un pied de caméra, j'ai mis la caméra sur son pied et je suis resté tranquille. Et peut-être qu'au bout de 4 ou 5 heures, j'ai décidé de tourner un plan. Mais un plan de cinéma, c'est pas des images, c'est pas une image, c'est différent. Entre tourner des plans et filmer des images, il y a une profonde distinction.
Et ça dépend de l'état dans lequel vous vous trouvez ou ça dépend de l'état dans lequel se trouve le réel, si le réel trouve des états? Parce que lorsque vous attendez 5 heures, évidemment, il ne se passe pas rien pendant ces 5 heures. Mais au bout de 5 heures, vous faites un plan, Nicolas Philibert. Donc c'est vous êtes aussi dans une disposition qui est différente.
Bien sûr. Pendant ces 5 heures, il se passe un tas de choses. Un tas de choses intéressantes en plus. La vie d'une petite classe où qu'on soit d'ailleurs. Si on regarde autour de soi, il se passe plein de choses.
Surtout si on le fait pendant 5 heures.
Mais il va s'agir au fond de construire quelque chose. C'est de ça dont il est question. Bien sûr, le tournage précède le montage, mais quand on commence à filmer, on commence déjà à réfléchir un peu montage. Il s'agit de construire une narration, un récit, et donc de faire des choix, de faire ce plan-là et pas celui-là. Voilà. Et puis, en effet, quelquefois, on est soi-même un peu dépassé par ce qui se passe. Mais bon, qu'importe. Un tournage, c'est toujours une prise de risque, au fond. Hein.
Il y a des prises de risque qui vous coûtent plus cher que d'autres?
Dans quel sens?
Dans le sens où, par exemple, des moments d'incertitude qui sont plus difficiles à gérer, des moments où il se passe trop de choses ou pas assez de choses, des moments qui vous fragilisent.
Il y a toujours de la fragilité quand on est en tournage, en tout cas pour moi, chez moi. Il y a peut-être des cinéastes qui sont plus démiurges et qui sont plus assurés. Moi, cette fragilité, je ne la rejette pas parce que c'est elle qui me pousse dans mes retranchements, au fond. J'ai choisi de faire des films de cette façon-là, en les inventant au tournage, sans trop en savoir à l'avance. Et je me rends compte que cette position-là, à la fois, me donne beaucoup de liberté, me rend fragile en même temps, mais cette fragilité, c'est une alliée, au fond. Imaginez un tournage sans angoisse, sans... Ça serait, on irait droit vers un flop total, un ratage complet, peut-être, parce que. Alors, je me souviens que quand j'ai tourné ici, dans ces lieux, pour ce film, La Maison de la Radio, j'étais, si j'ose dire, dans cet endroit ici, là où on est en ce moment, il se passe énormément de choses chaque jour. Il y a plein d'invités, il y a de toutes sortes, des artistes, des savants, des politiques.
Il y a plein de gens dans des bureaux, il y a plein de gens dans des cabines de montage, il y a plein de gens au self, il y a plein de gens derrière la vitre, il y a plein de gens à l'accueil, il y a
plein de gens. C'est foisonnant, c'est magnifique, c'est la vie, et puis le monde frappe à la porte et on entend ici tous les bruits du monde. Mais je dirais, j'ai passé mon temps. Pendant toutes les semaines de tournage ici, j'ai passé mon temps à me freiner, parce que il y avait trop de sollicitations et ça n'aurait servi à rien d'accumuler 500 heures de tournage pour un film d'1h30 ou d'1h40, évidemment. Et donc j'ai choisi de filmer ici ou là avec parcimonie. Pour ne pas me laisser envahir, pour ne pas me laisser dépasser, déborder, pour ne pas multiplier les difficultés au montage. Mais c'était parfois difficile. Alors qu'est-ce qui me faisait choisir au fond? Je me rends compte dans l'après-coup que c'est pas tant les sujets. J'ai filmé, par exemple, au moment des premiers soubresauts des printemps arabes. Ce qu'on a appelé les printemps arabes. J'ai filmé, j'étais encore là au moment de la catastrophe de Fukushima. Voilà des événements de portée universelle, des événements très très importants. Et évidemment, je me suis précipité pour filmer des émissions où il était question de ça. Et j'ai accumulé des différentes choses. Mais au montage, j'ai laissé tout ça de côté ou presque. Parce que quelque part, c'était les sujets qui prenaient le pas sur tout le reste. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de filmer, c'était pas de faire un film sur l'actualité, mais c'était d'essayer de filmer la radio, c'est-à-dire les voix, les regards, ce micro qu'on tend à l'autre, ces échanges, ces gestes. C'est très visuel, la radio, hein. C'est très très visuel, mais c'est la présence qui comptait, c'était les présences.
Puisque vous utilisez ce mot-là, le fait de parfois essayer de ne pas se laisser déborder, vous avez souvent filmé Nicolas Philibert, alors bon, ici bien sûr à la Maison de la Radio, mais dans plein d'autres endroits où il peut y avoir des émotions très fortes, parce que des situations d'apprentissage, parce que des êtres plus ou moins fragiles, parce que des enfants, parce que des moments de soins... Parce que des lieux aussi, parce que des animaux, bref. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu à ne pas être débordé par ses émotions, ses propres émotions à soi?
Il faut toujours essayer d'être, comme on dit, d'être à la bonne distance, en effet. Ne pas être trop proche, ne pas se laisser déborder par ses sentiments, ses émotions... ne pas non plus être
trop loin.
Trop loin. Mais parlant de ça, il s'agit pas de. C'est pas une méthode, c'est pas une recette, c'est pas. Cette question-là, elle se repose à chaque fois, pour chaque film, et au sein de chaque film, dans chaque situation, avec peut-être chacun des personnages ou des personnes qu'on filme. Donc, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de bonne distance en général. Ça veut strictement rien dire.
Ça se négocie tout le temps avec la personne filmée, avec le lieu, avec l'animal.
Oui, ce qui compte, moi, je fais un cinéma de la rencontre. Mes films reposent sur des rencontres. Les rencontres ont souvent une dimension de surprise. On se laisse tout d'un coup. Il y a de l'inattendu. Et c'est ça qui donne aux rencontres leur c'est ça qui fait que c'est touchant, que c'est beau, que c'est émouvant. Si on savait par avance ce que la rencontre va produire, ça serait inintéressant. Mais il s'agit du coup de réajuster tout le temps.
Je pense à un plan, quand vous parlez, qui m'a vraiment beaucoup frappé dans La Moindre des Choses. Je reviens à ce film-là parce qu'il est important. Alors, il y a celui qu'on a entendu tout à l'heure où on s'adresse à vous directement. Tu filmes, Nicolas. Bon, c'est pas rien, hein, évidemment, de garder ça au montage parce que ça veut dire que vous la gardez, cette question. Et puis, il y a un autre homme qui regarde la caméra et dit « Ah, on me prend ici » et qui, je pense, regarde probablement une perche pour le son. « Ah, on me prend là aussi, qu'est-ce qu'il me reste ?» Et puis vous coupez, vous passez à un plan suivant. Est-ce que c'est un souci, cela aussi, lorsqu'on fait un cinéma qu'on peut dire documentaire, quoi, ou qui se débrouille avec le réel, Nicolas Philibert, ce que l'on prend ?
Bien sûr. Ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas, ce qu'on laisse derrière soi, en tout cas chez moi, cette question-là est importante, elle est présente. Il s'agit de ne pas tout prendre, justement. Il s'agit pour moi, de ne pas écorner, entamer la sphère privée. Il y a des choses qui ne nous regardent pas, qui ne regardent pas tout le monde. Filmer documentaire, c'est pousser des gens de l'ombre à la lumière, mais ça veut pas dire que on est autorisé à tout dire, à tout montrer. Et voilà, c'est Michel, vous évoquez Michel, qui dit en effet, il est en train d'éplucher des oignons, il fait des grimaces, il pleure un peu, enfin, et il dit voilà, il s'aperçoit, il dit j'aimerais bien filmer moi aussi, mais et puis oui, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va me rester,
qu'est-ce qui va me rester,
qu'est-ce qui va me rester,
cette phrase-là, ouais.
Qu'est-ce qu'on laisse quand on fait un film, qu'est-ce qu'on laisse à ceux qu'on a filmés? On ne le sait jamais à l'avance du bonheur, ou à l'inverse de la colère, que sais-je. Mais même si on ne le sait pas, je pense que un cinéaste se doit de se poser un peu cette question-là à certains moments. Il s'agit pas non plus de se laisser complètement. C'est pas quelque chose qui doit nous
inhiber.
C'est une question. C'est une question essentielle dans le travail qui est le mien.
France Culture. Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Nicolas Philibert.
Ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. Ain't no use to sit and wonder why, babe, doesn't matter anyhow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason that I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. Name, God, like you never did before. Ain't no use of calling out my name, gal. I can't hear you anymore. Still, I'm a wishing there was something you could do or say that would make me change my mind and stay, but we never really did that much talking anyway. Don't think twice, it's alright. Turning on your light, girl, the light I never knowed. Ain't no use in turning on your light, girl, I'm on the dark side of the road. Still thinking and wondering as I'm walking down the road. I used to love a woman, a child, now I'm torn. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright.
Viens voir, s'il te plaît. Regarde, j'ai un bon reflux, mais j'arrive pas à monter.
Tu refais ?
Ouais. Regarde, t'en as deux d'à côté. T'en as deux côte à côte.
Là, j'en ai touché. Et la sympa, ah ouais.
Tu vois là juste à côté, te trompe pas.
Et donc il faudra peut-être que je vienne ici, moi.
Puis celle de gauche, c'est mieux.
Ouais, elle est bien plus grosse. Alors du coup.
Puis elle est droite surtout. Et là,
ouais.
Tu mets quoi comme caté là? Si tu piques ici, tu mets un bleu. Si tu piques là, tu mets un rose.
Un rose?
Ouais.
Ok. Voilà.
Merci.
Ça tourne pas trop?
Non, au contraire, ouais, j'adore, okay.
Au
j'adore.
Contraire, n'oubliez pas votre montre.
Te mets pas la pression. Te mets pas la pression. Les essais, tu sais les faire, le bilan, tu sais le faire, les cathéters, tu sais les poser. Maintenant, ça va être que des petits trucs de dextérité que tu vas acquérir tout au long de l'année qui se finit. Je veux pas que tu te mettes une pression supplémentaire de vitesse. Je veux juste que ton soin soit de plus en plus fluide. Maintenant, c'est bon, tu sais faire. Règles de bonne pratique, asepsie, hygiène, gestes, dextérité. C'est bon, c'est fait, tu sais le faire. Maintenant, plus fluide. Au taquet. T'as encore un peu... T'as encore peur de rentrer ton cathé. Je le vois, tu rentres un petit peu, t'attends un reflux. T'en auras pas. Rentre ton cathéter, attends.
Ouais.
D'accord ?
Ouais.
Allez.
Okay. D'accord. Ça marche.
Pourquoi ça nous fait autant sourire, Nicolas Philibert, cet extrait de votre dernier film de chaque instant ? Pourquoi ça fait sourire d'entendre une formatrice parler à une jeune infirmière d'une manière de planter un cathéter un peu franchement, qu'est-ce qu'on y entend d'autre que la claire formation technique qui a lieu ?
On y entend une espèce de... Il faut savoir que la formatrice est à peine plus âgée que Marianne. Hein. Elle a peut-être 6 mois de plus. Elle est de la promo d'avant, en gros. Hein. Et donc, elle a un peu plus d'assurance, mais elle n'a pas non plus des années d'expérience derrière elle. Il y a quelque chose d'assez... Il y a de la connivence entre elles deux. Il y a un truc très sympa entre elles. Moi, je souriais parce que je revoyais les images. Marianne, qui est quelqu'un qui ensoleille ce film par sa présence, et Inès, l'infirmière qui encadre Marianne, qui est à la fois dure en même temps bienveillante, et c'est un joli moment de complicité. Fallait encourager Marianne, qui n'était pas encore tout à fait sûre d'elle. C'est difficile, tout d'un coup, d'avoir affaire à des... On a 20 ans, 22 ans, et on doit soigner des gens.
Non, mais ce qu'on réalise, c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est une dinguerie, en fait. On réalise qu'on rencontre des jeunes gens qui ont à peine 20 ans, qui sont dans une salle de classe, et qui, une heure de film plus tard, sont en train de soigner des gens pour de vrai, et les voir mourir pour de vrai, et leur prendre du sang pour de vrai.
Mais oui. Eh oui, c'est, il faut, là, la question de comment ne pas se laisser envahir par ses émotions, cette question qu'on évoquait tout à l'heure, là, elle se pose, cette question-là, parce que, voilà, on a tout d'un coup, les jeunes apprenants sont confrontés à la souffrance, la maladie, la finitude, la fin de vie, ça demande de prendre sur soi, de vaincre sa peur, des phobies, et puis alors en plus, quand on est en formation, les premiers soins qu'on prodigue sur des vrais patients, on les fait sous le regard de sa tutrice, d'une tutrice ou d'une, et puis en l'occurrence quand j'ai tourné, il y avait à la fois le regard du patient, de l'infirmière qui encadrait l'étudiante, et puis le cinéaste qui est là. Ça faisait beaucoup, hein.
Ça va être une super promo. Ils vont être vraiment des super infirmiers, des super infirmières. Parlons un peu de ce dernier film, Nicolas Philibert, parce que voilà, ce coffret, c'est évidemment l'occasion de regarder en arrière. On était avec La Moindre des Choses en 1995, on a parlé d'Être et Avoir. De Chaque Instant, je disais en introduction, c'est vraiment un film sur le présent. Moi, je l'ai vraiment vu comme un film sur le présent, plus que comme un film sur la formation des infirmières et des infirmiers. Comme si c'était votre porte d'entrée. Que voulant embrasser une époque, bah vous étiez entré par là. Alors je ne sais pas si c'était le projet, mais en tout cas, le fait est que le film se referme sur un énième et si beau entretien d'orientation, de bilan de stage, et on se dit, bon, c'est plus grand ce qu'il filme en fait. Il filme plus que des élèves infirmiers.
Mais ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que pour moi, l'enjeu c'est que le film soit... si possible plus grand que son sujet, que l'intitulé de son sujet, et je crois que c'est bien le cas. J'avais envie de faire un film qui serait une sorte de portrait de la France d'aujourd'hui, hein, à travers ce prisme-là. On y voit déjà une diversité très grande parmi les étudiants que j'ai filmés. Diversité ethnique, il y a des gens de couleurs de peau différentes, de religions différentes, etc.
De genre
de genre, d'origine, l'hôpital, là où les étudiants infirmiers font leur stage, c'est un lieu de brassage, comme il n'y en a pas d'autre. C'est là où toute la population est mélangée. Et puis, si on écoute bien en particulier la troisième partie du film, celle où les étudiants de retour de stage racontent à leurs référents, leurs tutrices, leurs difficultés, les peurs qu'ils ont dû affronter, les problèmes rencontrés, etc. On entend assez clairement que l'hôpital aujourd'hui est fragilisé parce que il y a ce manque de lits, de moyens, manque de personnel. Il faut aller de plus en plus vite. Il y a une pression très forte, la pression de l'argent, la pression de l'économie qui s'exerce sur la santé, mais comme elle s'exerce sur les autres champs de l'activité humaine, sur l'éducation, sur voilà, et cette dimension là elle n'est pas brandie dans le film comme un étendard, comme on brandirait, comme c'est pas un, j'ai pas fait un film militant qui cherche à asséner un message, mais il n'empêche que le film a une dimension politique très 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 claire, très notamment pour ces deux raisons-là, cette image d'une population française au fond, d'une jeunesse française bien décidée à
J'allais dire très en forme, mais bien décidé est aussi un très bon terme pour qualifier les jeunes gens que vous avez filmés.
Mais oui, parce qu'on souvent le cinéma campe les jeunes comme des gens qui veulent rien foutre, avec souvent une espèce de cynisme comme ça, s'intéressant à rien, etc. Et moi, j'ai rencontré en filmant ces étudiants, ces étudiantes, des gens qui ont une belle détermination.
Et, à prendre soin des autres, faut quand même se dire ça.
Ce désir de se rendre utile, de faire un métier qui sera certes mal payé, qui sera difficile, qui va demander des efforts physiques. Il faut se lever quelquefois très tôt pour traverser toute la banlieue et jusqu'à son travail. On commence à 6h30 ou 7h moins le quart, ou alors on est du soir. Mais bref, c'est physiquement éprouvant. Il faut, je l'ai dit, aller de plus en plus vite. On n'a plus le temps de moins en moins le temps d'être à l'écoute. Cette dimension, je dirais, humaine du soin est souvent malmenée. Et il n'empêche que la plupart ont cette détermination et ça les rend beaux, ça les rend attachants. Ils sont forts. Ils ont ce désir de servir, d'être utile, de faire quelque chose de leur vie en se levant le matin.
Et ils ont en face d'eux des femmes et des hommes qui les écoutent et les prennent très au sérieux, que ce soit dans la manière dont ils apprennent le moindre geste, on passe vraiment de la moindre des choses au moindre geste, et aussi dans la manière dont chacun et chacune vient raconter son stage, ses doutes, ses questions, ses projets professionnels. Vous filmez aussi, comme souvent, Nicolas Philibert, des gens qui s'écoutent. Des gens qui parlent et des gens qui s'écoutent. Est-ce que c'est facile à filmer, ça ? Ou comment on filme des gens qui s'écoutent ?
Je l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de faire le plus simple possible, au plus simple. Alors, parlons de ces entretiens qui composent la troisième partie du film, ces retours de stage, ces bilans, ces...
C'est pas hyper sexy sur le papier.
Comment ?
C'est pas très sexy sur le papier.
Non, bien sûr que non, d'autant que aujourd'hui la parole, c'est un peu suspect, un documentaire qui repose sur la parole, il n'y a pas vraiment de mouvement, etc. Aujourd'hui, c'est presque un peu déconsidéré. À tort, parce que c'est peut-être ce qu'on a de plus beau, la parole, l'échange, la parole, voilà. Il se trouve que presque tous les étudiants que j'ai sollicités, à qui j'ai demandé s'ils acceptaient de filmer leur retour de stage, presque tous ont accepté. Pourquoi ? Peut-être parce que j'expliquais toujours que je partirais avant la fin. Je leur laisserais un quart d'heure pour qu'ils puissent parler sans moi, sans caméra, sans nous. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on a envie de dire à sa tutrice sans témoin, évidemment. Et ça les rassurait. Et puis, ils m'avaient vu un peu à l'œuvre dans les semaines précédentes. Ils avaient compris que j'étais pas celui qui cherchait à arracher les choses et que j'étais autant que possible... attentif, à l'écoute. Quand on vous dit « je veux bien être filmé », ça ne veut pas dire que le cinéaste peut s'autoriser à filmer à tout instant, tout et n'importe quoi.
Ça veut dire quoi ? Vous comprenez quoi quand quelqu'un vous dit « d'accord » ?
C'est très variable, parce qu'il y a des gens qui rêvent d'être filmés, qui attendent... quand je suis arrivé à la Borde, il y a un type qui a dit « ah ».
Enfin,
ça fait 20 ans que j'attends la caméra. Et ben, je ne l'ai pas filmé, lui, figurez-vous. Mais voilà, moi, au fond, qu'est-ce que je cherche à faire quand je tourne un film ? J'essaie d'obtenir que les gens que je sollicite acceptent de jouer avec moi, au fond, acceptent de rentrer dans mon jeu, acceptent de me donner quelque chose. Accepte de se laisser approcher. Voilà. Alors, celui qui dit ça fait 20 ans que j'attends la caméra, c'est peut-être celui qui fera un numéro devant la caméra. Ça, c'est pas ce qu'on cherche à capter. On voudrait filmer les gens dans leur. On voudrait qu'ils restent aussi authentiques, aussi spontanés que possible. Sachant que, bien sûr, une caméra change toujours un peu les comportements. Quand on se sent filmé, On fait peut-être un peu plus attention à ce qu'on dit, ou voilà. Mais non, presque tous ont accepté. De même, les patients que j'ai filmés, presque tous ont accepté d'être filmés. J'explique avant. J'explique ce que c'est que ce film, ce que je suis venu faire là. Il s'agit pas de dire simplement bonjour monsieur, je peux filmer. Non, bah non. Voilà, je suis en train de tourner un film qui sortira au cinéma, puis à la télé, puis en DVD, puis dans lequel on va voir des élèves infirmiers, infirmières apprendre leur métier, apprendre apprendre à endosser des responsabilités souvent très lourdes. Voilà. Et si on explique, la moitié du chemin est fait, si on explique bien.
Tubo, Théodora, Nanette, c'est Nanette ici, maman.
Elle est trop mal.
Ah, t'as vu, lui. Lui, ça va. Attends, ils ont des noms. Nanette. Nénette. Ah, Nénette, je suis pas restée celle-là.
Bah oui. Moi, c'est
Nénette. Ah, celui-là avec la petite perruque.
Ça fait 37 ans qu'elle est là.
Salut. Thibaut, c'est là-bas.
Pourquoi ils ont une grosse boule, là?
Cédric, fais pas l'andouille.
Thibaut et Nénette, ils ont une grosse boule, là.
Non, mais c'est surtout Thibaut.
Okay. Nénette, c'est celle-là.
Là-bas.
Nénette.
Théodora, là. Et Tamu, elle est là-bas.
Non, regardez.
Regarde,
mamie.
Théodora, c'est lui, c'est Tamu là. Tamu, c'est celui-là.
Hé, hey, c'est quoi là-haut là? T'as pas honte?
N'importe quoi. Théma les seins, c'est elle, la dame qui a les seins. Lui, c'est. Ils sont 4, 1, 2, 3 et 4 là-bas alors. Bah oui, c'est toujours comme ça. Ils disent toujours quelle date et tout, dans les trucs comme ça. Et en plus, la dame qui a les seins, là-bas, c'est le bébé, celui-là qui est ici. C'est celui-là, et celui-là qui est ici, c'est celui-là qui est là-bas.
On ferme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on ferme.
C'est un extrait de Nénette, un autre de vos films, Nicolas Philibert. Déjà pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, parce qu'elle a 50 ans.
Oui.
C'est un film qui regardait, entre autres choses, et écoutait, entre autres choses, des gens qui regardaient un animal. Un gros animal. Mais c'est aussi des enfants qui parlent. Et je pensais quand même, pendant une grande partie de notre entretien, au visage du tout petit garçon qui est derrière le coffret. Il y a votre visage à vous. Et puis il y a une toute petite photo. Vous êtes vraiment tout petit.
Oui.
Genre 2 ans.
Aujourd'hui, je ne suis pas très grand non plus.
Oui, mais bon. Là,
mais là j'étais encore plus petit. Oui,
c'est
j'avais...
ça.
Un an et demi peut-être, ou deux ans, oui.
Et alors voilà, ces enfants qui parlent comme ça devant Nénette, et grand singe, et ce petit garçon qui est comme après la boucle refermée là sur ce coffret, je me suis dit, c'est marrant, pourquoi avoir mis ce tout jeune visage, Nicolas Philibert?
Je sais pas pourquoi, peut-être parce que cette photo me... Je la trouve touchante avec ce regard un peu en l'air et puis ses cheveux en l'air aussi déjà. Voilà. Peut-être aussi parce que j'ai parfois quelque chose d'enfantin. Je sais pas très bien pourquoi j'ai mis ça.
Et peut-être un truc qui se garde du jeu. Tout à l'heure, vous disiez, quand j'entends quelqu'un qui veut bien être filmé, j'entends qu'il veut bien jouer avec moi.
Mmh. Oui. Oui, c'est ça. Faire un film, il y a cette dimension-là, oui. Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Oui. Nénette, c'est un film... C'est un film sur le regard, qu'est-ce que c'est que regarder, comment c'est un film qui prend à la lettre l'idée de la projection. Regarder Nénette, c'est se voir en miroir. Il y a cet effet miroir. les réflexions des humains face à cet orang-outan femelle très 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 impressionnante, très très calme, très placide derrière la vitre de sa cage qui nous regarde elle aussi. Elle nous regarde, ça nous regarde au fond. Hein, cet animal nous regarde. Là aussi, à travers ce film, il y a beaucoup de couches. C'est un peu comme un, oui, c'est un film sur nous. C'est plus un film sur nous qu'un film sur Nénette au fond. C'est pas un documentaire animalier, hein, clairement. Pour les auditeurs, il faut expliquer. C'est un film pendant une heure dix, on voit Nénette à travers la vitre de sa cage et on entend les réflexions des humains qui passent, tout à la fois des promeneurs lambda. En même temps, on entend les soigneurs qui s'occupent d'elle, qui la connaissent, et puis des personnes que j'ai sollicitées, à qui j'ai demandé de venir parler de ce qu'ils voyaient en regardant Nénette, de ce que ça leur donnait à penser. Et voilà, petit à petit, on entend toutes sortes de questions. Qu'est-ce que c'est que ces êtres humains qui sont en train de faire disparaître parmi nos cousins les plus proches, hein, on est en train d'exterminer les orang-outans et beaucoup d'espèces animales, on le sait bien, on est en train de détruire notre planète. Réflexion sur la captivité comme quelque chose qui conserve. Nénette a 50 ans cette année. Dans la nature, les orang-outans ne vivent pas aussi longtemps. J'allais dire la captivité, ça a du bon. C'est un peu une blague parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, elle nous donne à rêver, à réfléchir. Elle est troublante, elle est touchante, elle est indifférente. Derrière, elle nous regarde, mais un peu de haut, comme ça. Qu'est-ce qu'elle pense? On se demande ce qu'elle pense. À quoi pense-t-elle? Est-ce qu'elle pense? Ce sont des animaux intelligents, mais ils n'ont pas la parole. Et on aimerait bien savoir ce qu'elle pense, Nénette, quand elle nous regarde. Elle est comme la psy, là, un peu.
Merci beaucoup, Nicolas Philibert. Ce coffret est donc publié aux éditions Blackout. On y retrouve bien plus de films que ceux qu'on a évoqués ce soir, et bien d'autres choses encore. Un grand merci aussi à Florent Bujon qui était à la prise de son ce soir, à la réalisation Lise-Marie Barré, Louque Vauvillier, Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Valentin Rémy, Marianne Chassor, c'est au moins tout ça par les temps qui courent, toutes celles-ci et tout cela. Un grand merci à eux, franceculture.fr pour toutes les informations, dans un instant le journal, podcast de par les temps qui courent, disponible, hyper disponible, et à demain.